Les Canuts, première partie, chapitre 2. Cinq heures et demie du matin. Dans la rue Néret, silencieuse, la maison numéro 27, à l'angle de la Grande Côte, commençait à s'éveiller. Matineux, l'épicier Paclé venait d'ouvrir la porte d'allée et la devanture de sa boutique. Il avait déjà suspendu au dehors une morue sèche à l'unique vitrine, derrière laquelle s'étalait, sous une cloche de verre, un pain de gruyère à demi entamé, entre un tas de chandelles et des caissons de figues et de café. Tranquillement, le petit père Paclé, en gros tricot de laine et tablier bleu, la casquette de loutre enfoncée sur les oreilles, balayait le seuil de la boutique, à petits coups, ménageant son embonpoint. Là-haut, le faîte de la vieille bâtisse s'éclairait d'une lumière blonde. Aux étages inférieurs, la façade restait grise et maussade, montrant son entrée basse, à plein cintre, sa lourde porte de chêne vermoulu semée de gros clous et muni d'un heurtoir en forme de main, son allée en contrebas, aboutissant à une petite cour obscure et encombrée d'immondices aux exhalaisons fétides. Au troisième, chez les Jacquemin, tout dormait encore profondément. Dans l'atmosphère lourde et chaude, imprégnée des odeurs du repas de la veille, des ronflements sonores partaient de l'alcôve, fermée par de vieux rideaux de cretonne à fleurs rouges. Près d'un rouet à canette, dans un coin, la vieille horloge en noyer montant jusqu'au plafond murmurait lentement son tic-tac, le balancier allant et revenant derrière la vitre ronde. Le jour entrait par les trois fenêtres donnant sur la rue. Deux canaris, perchés dans une cage suspendue à la solive, commençaient à s'agiter et à hérisser leurs plumes. « C'est jour !» soupira une voix dans l'alcôve. Mais rien ne bougea, et les ronflements continuèrent. L'un des canaris s'acharnait contre l'os de sèche, qu'il frappait violemment à coups de bec. Près de la porte, dans un coin de quelques pieds carrés, séparé de la pièce principale par une cloison vitrée, et servant à la fois de cuisine et de salle à manger, le chat, couché en rond sur une chaise, venait de s'éveiller à son tour et de sauter à terre. Il s'étira, fit sa toilette, et alla sous la table visiter son écuelle. D'un timbre fêlé, l'horloge sonna 6 heures. En même temps, dans la rue, une voiture de laitière passait, avec un grand fracas de berthe en fer blanc. « Déjà 6 heures, » répéta la mère Jacquemin d'une voix dolente. Et, alourdie par le sommeil, d'un effort, elle glissa du lit avec précaution pour ne pas éveiller son homme, enfila une camisole et un vieux jupon rapiécé, puis entr'ouvrit les rideaux et, des savates aux pieds, ses joues molles et bouffies, au ton de cire, encadré d'un bonnet à 3 pièces noué sous le menton, les yeux clignés à la lumière, elle se mit à errer à travers l'atelier. 3 métiers, au madrier de sapin jauni, emplissaient presque toute la pièce. Un de façonner, avec sa jacquard, son cylindre, son dessin aux 1000 cartons, ses arcades, ses maillons et ses poids. 2 d'armure, moins massifs, moins compliqués, avec leurs corps de remise, leurs lisses et leurs liserons. Au pied de chaque métier, la caisse au poids, pareille à un cercueil d'enfant, servant à tenir la chaîne, lorsque l'ouvrier travaillait. Puis, devant, la banquette luisante, adossée au montant de droite, et plus haut, les forces suspendues à un clou. 2 des métiers avaient leur longueur couverte de linge blanc, préservant la soie de la poussière. Le 3e était vide, attendant une pièce. La mère s'assura que les longueurs étaient entièrement protégées. C'était bien. Elle pourrait balayer tout à l'heure. Maintenant, dans la chambre au-dessus, résonnait un bruit de galoche. Zabé, le compagnon, s'apprêtait à descendre. Il était temps de faire le feu. Les ronflements de l'alcôve avaient cessé. La mère ouvrit la porte vitrée et souleva le couvercle du poêle. Comme elle faisait tomber les cendres et ôtait un à un les débris de houille, un accès de toux la prit. Quand le spasme fut passé, elle regarnit le poêle, mettant au fond des copeaux, de petits morceaux de bois, du carton, et recouvrant le tout de poussière mouillée. Alors elle alluma. Elle tira ensuite le verrou de la porte d'entrée et se mit à balayer l'atelier, fouillant les coins et les trous creusés dans le carrelage disjoints aux endroits où on avait l'habitude de marcher, chassant la poussière devant elle et ne s'arrêtant que lorsqu'un nouvel accès de toux la suffoquait. Quand ce fut fini, elle referma la porte.
« Hé, Jacquemin ! » cria-t-elle en posant son balai. « Tu dors comme une marmotte ce matin ! Il fait grand soleil !»«
Je me lève !» dit le père, la voix pâteuse.
Les rideaux remuèrent. Puis Jacquemin sortit de l'alcôve avec un pantalon à petits ponts, retenu par une seule bretelle, son bonnet de coton lui couvrant les oreilles et laissant passer derrière une mèche de cheveux blancs.
« Comment ça va aujourd'hui, maman ? »
dit-il, se frottant les yeux. La mère s'était assise, déjà lasse.
« Guère mieux qu'hier. C'est fini de la santé. Je ne suis plus qu'une patraque. Avec ça, faut se démener, comme si on était jeune. Si on avait seulement son pain assuré pour le lendemain...
« Te fais pas de mauvais sang, va. Achat peu, le bon temps reviendra, quand le tarif sera voté. »
Mais elle secouait la tête d'un air incrédule, le regard fixé sur une Notre-Dame de Fourvière en plâtre, placée sur la commode, entre deux vases de fleurs artificielles, où jouait un rayon de soleil.
« Ah, si on n'avait pas la foi pour se soutenir !» ajouta-t-elle.
Avec un bruit de galoche, Zabé entra, roulant des épaules, le dos rond et la poitrine creuse, la taille d'un enfant chétif. Tout de suite, il dit bonjour, souriant de ses yeux noirs trop grands, dans sa figure maigre, et brillant d'une ardeur maladive. Puis, avant de refermer la porte, il s'informa de la santé de la mère. Elle, mise en sueur, serrait sa camisole autour de son corps.
Tu fais courant d'air, Zabé, toujours dans la lune.
Je ferme, patronne, ne gongonnez pas, voilà.
Tandis que le compagnon s'approchait de sa banquette, le père alla frapper à une petite porte au fond de l'atelier.
Marius !
Cria-t-il.
Allons, fainéant ! Zabé est à l'ouvrage.
Où en es-tu ? Reprit la mère debout, s'adressant au compagnon.
« Chaumes-tu de canettes ?»«
Ma foi, il m'en reste deux, mais je les aurai bientôt employées. Elles ne sont pas grosses et je vais vite. »«
Bon, je vais t'en faire quand la soupe sera sur le feu. »
Comme elle posait sur le poêle sa marmite pleine d'eau et se mettait à peler des pommes de terre, le compagnon découvrit son métier. À travers les vitres ternies, le soleil entrait à flots. Zabé tourna sa figure pâle vers la fenêtre. D'un coup d'œil, il vit par-dessus les cheminées les verdures jaunissantes du coteau de Fourvière et plus bas, noyé dans une brume bleue, le ruban miroitant de la Saône, la masse confuse de la grande ville d'où montaient les flèches des églises. Les beaux jours allaient finir. Ce gai soleil tamisé de vapeur serait peut-être le dernier de la saison. L'âme frileuse du pauvre garçon souffrit à cette pensée. Adieu les promenades solitaires vers les jardins de cuir. Il faudrait rester dedans le dimanche, à voir pleuvoir ou neiger.
ramenant son regard dans l'atelier. Il revit devant lui, trouant violemment le mur blanchi à la chaux, deux maussades enluminures. Louis-Philippe, roi des Français, et le marquis de Lafayette, qu'il aurait constamment sous les yeux pendant les grises journées d'hiver. Alors, fiévreusement, il releva la caisse au poids pour faire tirer la chaîne, étendit son panaire sur la fassure et s'assit sur la banquette, plus haute à son métier à cause de sa petite taille. En ouvrier soigneux, il s'assura que rien n'était dérangé de sa navette, que la trame passait bien dans l'annelet de verre. Puis il mit le pied sur la pédale, tira le bouton et donna le premier coup de battant. Bis, tang, clac, pan, bis, tang, clac, pan. Le métier était en train. À chaque passé, l'étoffe marchait, s'enroulant à mesure sur le rouleau de devant. À son tour, Marius sortit de sa chambrette en costume de travail. Un vieux pantalon de peau de diable et un gilet à manches. « Bonjour à tous, » dit-il. Aussitôt, il s'installa à son métier de façonner. Il mit une canette neuve à sa navette et des filles dans la médée une tenue qui produisait un crapaud sur l'étoffe. Puis il marcha en arrière pour retrouver le pas, s'assit et commença son travail. Chaque coup du lourd battant faisait tressauter les vitres. La masse des maillons retombant ébranlait tout l'étage. Le dessin tournait lentement. Les cartons venant tour à tour se plaquaient contre le cylindre de la jacquard et, sur la fassure, les fleurs de l'étoffe, vieil or sur fond noir, s'esquissaient peu à peu, se contresemplant. Dans l'attente du tarif, le père n'avait pas repris de pièce. Son métier était vide. Quand il eut endossé son gros tricot de laine marron à poignées rouges, il tira d'un placard des roues dentées, des tringles de fer, un rouleau de fil de laiton. C'étaient les éléments d'un régulateur auquel il travaillait depuis des années. Dans cet esprit d'ouvrier laborieux, mais sans instruction, une idée avait germé, pleine de promesses, mais confuse. Avec l'obstination des inventeurs et la patience des pauvres qui ont le mirage d'une fortune, Jacquemin s'était absorbé dans sa découverte. Après ses premiers essais, il avait acheté chez un bouquiniste un traité de mécanique, orné de planches, et s'était plongé durant les longues soirées d'hiver dans l'étude de cet ouvrage trop savant pour ses connaissances. Il sortait de cette lecture avec des alternatives d'enthousiasme et de découragement. Recommençait ses tentatives. Il rêvait assis à son métier tandis qu'il passait la navette et, souvent, aux heures des repas, en parlait à sa femme et à son fils, qui maintenant piochait avec lui le traité de mécanique. Un peu plus tôt, un peu plus tard, il se disait certain de réaliser son idée. Ah, s'il avait eu les moyens de s'adresser à un ingénieur, il y aurait beau temps qu'il serait arrivé. Mais ça viendrait. Encore un peu de patience. Son régulateur achevé, il le présenterait à la chambre de commerce, le ferait breveter. Et cette invention apporterait le bien-être dans le ménage. Peut-être la fortune. À cette pensée, un éclair de joie dans les yeux, il souriait. La mère aussi souriait, mais avec un incrédule hochement de la tête. Elle savait tout ce que valait son homme, mais ne lui croyait pas l'étoffe d'un inventeur. Au reste, M. Bouvet, qui était un savant, lui, n'avait-il pas toujours plaisanté au sujet de sa marotte? Ne lui avait-il pas dit que cette idée fixe l'étonnait chez un homme aussi sensé? Non, elle ne croirait au régulateur que lorsqu'elle l'aurait vu marcher. Tandis que le père s'isolait dans la contemplation de son appareil, tirant par un mouvement qui lui était familier les petites boucles d'or qu'il portait aux oreilles. La mère, à son rouet, faisait des canettes de deux sortes. Les unes de trame bleu de ciel pour Zabé, les autres de coton noir pour Marius. Par moments, elle jetait un coup d'œil vers Jacquemin. Leurs regards se rencontrèrent. « Tu t'amuses à ta mécanique ?» lui cria-t-elle dans le vacarme des métiers.
« Je ne m'amuse pas. Je profite de ce que je n'ai pas de pièces. Après le tarif, je n'aurai plus le temps. »
Elle ne répondit pas. Quand les planchettes appendues au métier furent garnies de canettes, elle alla jeter un coup d'œil à la soupe, mit une pincée de sel dans la marmite et goûta le bouillon. Puis elle vint remonter la chaîne de Marius, profitant de ce qu'il s'était arrêté, pour remplacer un maillon brisé. La main droite armée de force, elle défaisait les entorses et les tenues, coupait délicatement les bouchons et les nœuds, rhabillait les fils cassés ou écorchés, se servant pour les ajoutages du roquet de jointe qui se balançait au-dessus de la longueur, suspendu à une corde horizontale.
« Ah, quelle mauvaise soie » murmura-t-elle impatientée. « Est-ce possible de donner à tisser de la sale marchandise comme ça ?
La chaîne vous reste au doigt dès qu'on la touche. On est pourtant bien obligé de la manier. Les fils sont à râper ensemble, et c'est tout un mystère pour les décapiller.
Pour sûr, c'est de la soie brûlée. La pièce sera tout en crapaud.
Tant pis pour le fabricant. Voilà ce que c'est que de charger la soie. Ça ne se faisait pas dans le temps jadis. » Sur le carré, la porte en face s'ouvrit brusquement, laissant passer un bruit de dévidoir et de chansons d'ouvrières.
« Sois bien sage, Eugène. Ne t'arrête pas en route !»
cria la mère des négrices.
« Oui, maman !»
Avec fracas, l'enfant referma la porte et descendit en sifflant l'escalier en colimaçon. La mine futée, l'air crâne d'un petit homme, il partait pour le magasin de M. Victor Jacquemin, où il faisait les courses et brassait les roquets. « Eugène qui s'en va !» reprit la mère. Il est 7 heures. Bientôt, on entendit dans la rue des cris et un piétinement précipité de gens qui couraient.
« Qu'est-ce que c'est ? » dit Marius.
« Regarde donc, Zabé. »
Le compagnon ouvrit une fenêtre.
« Petit galapien, va, que je t'y rattrape !»
criait une voix d'homme en colère. C'était Peju, le savetier d'en face. Son tire-pied à la main, il avait essayé de courir après Eugène, mais sans être parvenu à l'atteindre. Chaque matin, passant devant l'échoppe, le petit gaune s'amusait à enfoncer le doigt dans le papier huilé qui garnissait les croisées, en guise de vitre, et criait
« Hé, père Peju, quelle heure est-ce ? »
Ce matin-là, il avait passé toute la tête à travers le châssis. À leur tour, les Jacquemins s'étaient mis à la fenêtre. En bas, tous les boutiquiers étaient sur leurs portes. L'épicier Paclet, sa femme, les demoiselles Verchères, du bureau de tabac, le marchand de bois Terrasson lui-même, s'amusaient de la colère du savetier et s'esclaffaient de rire. Peju était rentré. Jacquemin se retirait de la fenêtre lorsque, derrière lui, il entendit la voix fraîche de Louise, la grande sœur du petit gaune, qui venait de paraître sur le seuil de l'atelier, suivie d'une ouvrière à la mine réjouie, portant sous son bras une balle de roquet.
« Ah, il en fait de belle, ton petit gredin de frère » s'écria-t-il avec un rire bonhomme.
Moitié sérieuse, moitié fâchée, la jeune fille blâma Eugène, disant qu'il ne ferait qu'un polisson s'il continuait. Puis elle demanda à la mère si elle avait des commissions. Elle allait avec Rose chercher de l'ouvrage au magasin et rendre de la soie dévidée. Les mains dans les poches de son tablier, elle attendait la réponse. Timidement, Zabé contemplait son joli teint de blonde éclairée par de grands yeux bleus, sa taille ronde et souple, de fille de 18 ans. La mère se grattait la nuque, réfléchissant.
« Non, mamie, » dit-elle enfin.
« Merci, je ne vois rien pour le moment. D'ailleurs, Jacquemin va descendre avec les délégués. Si j'avais une commission tout à l'heure, je la lui donnerais. »
« Alors, ce sera pour une autre fois, » dit Louise gentiment. « Faut pas vous gêner avec nous. »
Elle descendit derrière Rose. Et Zabé, sournoisement, s'arrêta pour la voir passer dans la rue.
« Je parie, » dit-il en revenant à sa place, « que gêne ce lantibardane encore par la Grand-Côte.
Si tu te déranges toujours, » fit observer le père, « tu bousilleras ton ouvrage. »
La mère excusa Eugène. Le petit n'était pas mauvais, seulement un peu vif, et ça lui passerait bien avec l'âge. Quant à Louise, une petite perle, cet enfant. Madame Dénégris était heureuse d'avoir une fille si sage, si modeste, si travailleuse. Elle était bien dédommagée de tout ce qu'elle avait enduré avec son mari, le maître serrurier, qui dépensait en bamboche tout l'argent du ménage. Elle l'avait laissé avec des dettes. Depuis son veuvage, elle s'était bien tirée d'affaires à force de travail et d'économie. Maintenant, elle avait 4 mécaniques à dévider, 1 détrancanoir, et occupait 3 ouvrières. Oui, Madame Dénégris était bien récompensée. Et Louise ne serait pas sans le sou quand elle se marierait.
Trou-hou-hou, trou-hou-hou.
De la rue montait un son de trompe. Le chat, la queue en l'air, sauta de sa chaise, faisant le gros dos, et vint tourner autour de Zabé, se frottant à ses mollets et miaulant d'impatience.
« Allons, Zabé, » fit la mère s'interrompant. « Apprête-toi à descendre. Guignol a senti le tripier. Voilà 10 sous. Tu prendras pour lui un bout de melette et, pour nous, 1/2 livre de mou de veau. »
Zabé enfila ses galoches et descendit. Bientôt, il remonta, rapportant dans un papier jaune de la chair rouge veinée de bleu. Il en jeta un morceau à Guignol, qui le happa et s'enfuit dans l'alcôve. Sans perdre de temps, le compagnon avait abaissé le poids de son métier. Déroulant l'étoffe, il la frotta à l'envers avec son polissoir de corne. Ce bruit strident excita les canaris qui, dressés sur leur perchoir, se mirent à chanter à tue-tête. 8 heures. La soupe était cuite. La mère coupa du pain en tranches, en remplit 4 écuelles, et puisant dans la marmite avec une grande cuillère de bois, versa le bouillon dessus. La fumée montait, emplissant l'atelier d'une odeur fade.
« À la soupe !»
cria la mère. Tout de suite, les hommes quittèrent leur travail et allèrent s'asseoir autour de la table, derrière le vitrage. Quand ils eurent mangé,
« À quelle heure descendez-vous, père ?»
demanda Marius.
« C'est pour 10 heures à la préfecture. »
La mère se leva pour préparer les effets de son homme. Lui demeurait accoudé à la table. Il était pris d'une inquiétude soudaine. Qu'allait-il sortir de cette discussion avec les fabricants? Le tarif serait-il accepté? Si, par malheur, il était rejeté, ce serait la misère noire. Et savait-on ce qui arriverait alors? On allait encore descendre en masse aujourd'hui. Et si l'on n'obtenait pas ce qu'on espérait, on ne pourrait répondre de rien. Gare le grabuge! Longtemps, il resta immobile, remuant toutes ces choses dans sa tête. À la fin, s'apercevant que Marius et Zabé s'étaient remis à leur métier, il se leva et vint, tout songeur, près de la fenêtre ouverte. Il semblait suivre des yeux les fumées qui montaient dorées dans un rayon de soleil. La mère, qui brossait son habit, devinant ses préoccupations, le regardait sans rien dire. La rue s'animait. Devant le bureau de tabac, une dizaine de tisseurs en lévite causaient, fumant leurs pipes. D'autres se dirigeaient déjà vers la grande côte. « Habille-toi, Jacquemin, c'est l'heure, » dit-elle. Il entra dans l'alcôve pour passer une chemise propre. Puis la mère lui noua au cou sa large cravate noire. Elle avait un pli au front. Elle non plus n'était pas tranquille. « Si on n'obtenait pas le tarif, » dit-il la voix sourde. Elle fit la vaillante. Il l'obtiendrait, c'était sûr. Les fabricants n'étaient pas intraitables. Mais une voix criait dans la rue. « Père, on vous appelle !» avertit Marius. « C'est Favre !» dit Jacquemin. « Au revoir, mes enfants !»« Au revoir, père !» Et prenant son grand chapeau, Jacquemin se précipita dans l'escalier.